Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Je vous raconte une affaire criminelle de 1929 à Béziers dans l'Hérault, l'affaire du docteur Lager. Une affaire qui voit réapparaître un poison auquel les assassins avaient renoncé puisqu'il est détectable, qui est l'arsenic. Une histoire que je tire du livre de Jean-Pierre Fournier aux éditions Le Papillon Rouge, l'affaire Lager, une énigme qui bouleversa la France. Il sera là tout à l'heure pour le débrief. Thomas Audouard m'a aidé à écrire cette histoire. Réalisation Céline Lebras.
14h-15h,
Ondelat raconte sur Europe 1.
On est à la fin de l'été 1929 à Béziers dans l'Hérault. Et Marie-Louise Lager, se sent patraque. Depuis qu'elle est rentrée de vacances chez son frère Pierre, dans le Tarn, elle a beaucoup maigri, elle se sent faiblarde, elle tousse, elle a des saignements, et surtout, des démangeaisons. Ça la gratte toute la journée. C'est infernal. Oh, j'ai dû attraper quelque chose là-bas. C'est mon frère. Quoi, je sais pas, mais quelque chose. Alors elle va voir son médecin, le docteur Rouleau. Allez-y, toussez, inspirez. Bon, je ne vois pas trop, je vais vous prescrire des vitamines. J'espère que ça ira mieux. Et de fait, assez vite, ça va mieux. Mais 4 mois plus tard, à Noël, elle va réveillonner avec sa maman et son frère, et le lendemain, elle retombe malade. Elle vomit toute la nuit. Alors elle appelle son frère Pierre, il est dentiste, mais c'est un docteur.
Mais qu'est-ce qui t'arrive, ma pauvre Marie-Louise? Je vais te préparer des infusions, ça devrait aller mieux.
Elle prend ses infusions que son frère a gentiment fabriquées pour elle. Ça ne lui fait rien. Pire, ça s'aggrave. Et maintenant, en plus des vomissements, elle a le visage enflé et des plaques d'urticaire partout sur le corps. Elle retourne donc voir le bon docteur Rouleau.
Je me demande, Marie-Louise, si ça n'est pas une intoxication alimentaire. Vous ne pensez pas?
Après Noël, c'est assez banal. Et donc, il lui recommande des soupes et des tisanes. Mais Marie-Louise ne va pas mieux. Et donc, sa mère et son frère décident de venir s'installer chez elle pour la dorloter. Elle en a bien besoin. Mais les tisanes n'y font rien. Et fin janvier, Marie-Louise n'est toujours pas sur pied. Le bon docteur Rouleau n'explique pas son état, et son dentiste de frère non plus. D'autant que ça s'aggrave. Elle ne tient plus sur ses jambes, elle a la tête qui tourne dès qu'elle se met debout.
Oh, puis maintenant j'ai les jambes lourdes, et les bras aussi, et puis des engourdissements dans les doigts.
La mère fait alors appeler un autre médecin, le docteur Pagès. Il vient, il l'ausculte longuement.
Bon. Je pense que c'est une intoxication. Alors de quelle origine, ça? Je n'en sais rien, mais c'est une intoxication.
Et en sortant, il va voir son confrère Rouleau.
Cher ami, si vous voulez mon avis, il faudrait pas tarder à l'hospitaliser.
Mais on tarde. Sauf que le 1er février, c'est-à-dire un mois après Noël, Marie-Louise ne va pas mieux. Et les deux docteurs en concluent qu'elle a été empoisonnée. Et ils appellent son frère Pierre, le dentiste, pour le lui dire.
Empoisonnée? Marie-Louise? Mais comment est-ce possible?
L'urgence, mon cher confrère, à notre avis, c'est de l'hospitaliser. Alors, l'hôpital de Béziers ou une clinique, c'est à vous de voir, mais... Vous devriez appeler une ambulance et vite, hein?
Une ambulance? Une ambulance, le frère dentiste renacle un peu. C'est que son cabinet est installé chez Marie-Louise. Alors une ambulance devant son cabinet?
Vous comprenez? Il faudrait pas qu'on dise que j'ai raté un patient, voyez-vous?
Il est gonflé. Heureusement, l'après-midi même, il change d'avis. Et Marie-Louise est emmenée en ambulance dans une clinique de Béziers, la clinique Arriva. Empoisonnée, donc. Mais comment? Et par qui? Et surtout pourquoi? À la clinique, Marie-Louise souffre beaucoup. Elle a des difficultés à parler, à respirer, sa peau est couverte de taches, ses cheveux tombent. Et là, elle réalise soudain que sa belle-sœur Suzanne, la femme de son frère Pierre, qui est morte il y a quoi, 3 mois, avait à peu près les mêmes symptômes. Et surtout, elle se souvient que la première femme de Pierre, Sarah, est morte il y a 7 ans d'une soi-disant crise cardiaque. Et elle se dit, sa première femme, sa deuxième femme, et aujourd'hui moi, ça tombe comme à gravelotte dans l'entourage de Pierre, non ? Et elle n'est pas la seule à se poser des questions sur son frère 2 fois veuf. Ça cancane dans le quartier. Les gens, ses patients surtout, trouvent qu'il s'est consolé un peu vite après la mort de Suzanne. Il a une maîtresse, le diable, et il se cache à peine, hein. Il s'en est bien vite remis. Et là, Marie-Louise se dit, au cas où j'y passerai moi aussi, je vais faire un testament. Et donc elle rédige un testament dans lequel elle désigne sa mère Marie comme légataire universelle. Sa mère, et pas son frère. Il ne manquerait plus qu'il s'enrichisse sur sa mort, celui-là. Et toujours hospitalisée, Marie-Louise ne se prive pas de dire ses soupçons à voix haute, depuis son lit.
Ce que je trouve bizarre, voyez-vous, c'est que je suis malade après avoir été chez mon frère, qui lui-même avait vu sa femme mourir il y a 3 mois, des mêmes symptômes, vous voyez.
Elle dit ça pour que tout le monde soit au courant, au cas où il lui arriverait quelque chose. Et donc à la clinique Arrivade, tout le monde est au parfum. Les médecins, les infirmières, et même la religieuse qui dirige la clinique, sœur Anne-Thérèse, qui prend en conséquence une décision radicale.
Faites en sorte que ce monsieur âgé ne puisse pas mettre les pieds ici. Et s'il vient, empêchez-le d'entrer. Sœur Marie-Jésus, un empoisonneur.
Pierre Lager, ça va de soi, finit par apprendre que sa sœur a des soupçons. Et comme il n'est pas idiot, il comprend qu'il va y avoir une enquête et qu'on va ressortir les vieux dossiers, la mort de ses 2 chères épouses, par exemple. Et donc, plutôt que de subir, il décide d'agir. Assez finement, d'ailleurs.
Monsieur le commissaire, je réclame une enquête sur le mal qui frappe ma sœur. Enfin, et comme les symptômes ressemblent, paraît-il, à ceux de ma pauvre femme, eh bien, je veux qu'on enquête aussi sur le mal qui a emporté Suzanne. Exhumez-la, s'il le faut. Pratiquez une autopsie. Ce sera pénible à vivre, mais mieux vaut encore la vérité. Il faut savoir.
Bien joué. Est-ce qu'un coupable demanderait qu'on fasse une autopsie? Non. Sauf que dans le même temps, il écrit au procureur pour supplier que l'on n'exhume pas sa chère Suzanne. Qu'on épargne à ma pauvre Suzy l'infâme souillure d'une exhumation, qu'on la laisse dormir en paix. Il s'adapte. Il fait comme il peut. À la clinique, il faut maintenant établir de quoi souffre Marie-Louise. Les analyses d'urine confirment qu'elle a été intoxiquée. Mais par quoi, pour l'instant, les médecins ne le savent pas. Mais ils pensent à l'arsenic. Et ça, c'est pas compliqué, il y a un test. Le test de marche qu'on pratique sur un échantillon de cheveux. Si c'est l'arsenic, on le saura, le test est infaillible. Dans l'attente des résultats, Marie-Louise porte plainte pour empoisonnement sur sa personne et contre inconnu, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire qu'elle n'ose pas désigner son frère. C'est dur. Dans la foulée, le procureur de Béziers ouvre une information et désigne un juge d'instruction. C'est parti. La machine est lancée. La première chose que fait le juge, c'est de se rendre à la clinique pour interroger Marie-Louise. Et elle lui déballe tout.
Oh, quand ça a commencé, ça m'a fait réfléchir, monsieur le juge. J'avais le même mal que les pauvres belles-sœurs qui en sont mortes. Vous comprenez, j'ai trouvé ça bizarre, monsieur le juge. Et puis je me suis aperçu que je suis tombé malade après avoir séjourné chez mon frère. Et que ça s'est aggravé à chaque fois qu'il s'est occupé de moi.
Et là, elle se met à parler d'un bouillon qu'un jour il lui a fait réchauffer.
Oh, ça lui a pris 100 ans de réchauffer ce bouillon.
Mais surtout, elle entr'ouvre au juge d'instruction la porte du mobile.
Ah, c'est qu'il me doit beaucoup d'argent. Énormément d'argent. Et si je passe, il me doit plus rien. Vous voyez? Il me doit plus rien.
Le juge n'a plus qu'à s'engouffrer. Il convoque sur le champ un collège d'experts en leur demandant de faire rapidement, on ne sait jamais, toutes les analyses, sang, urine et cheveux. Il veut être certain qu'elle a été empoisonnée. Le frérot, bien entendu, avant de tout ça. Et comme il a une maîtresse, Paul, il se dit dans le contexte, c'est pas bon pour moi. Et donc il lui adresse une lettre de rupture.
Ma petite Paulou chérie, je viens te dire, pour que tu sois quoi qu'il arrive en dehors de tout ça, pour qu'à ton tour tu ne sois pas soupçonné ne serait-ce que d'être la cause de cette action comme impute, il faut nous séparer, ne plus nous revoir, au moins tant que cela ne sera pas éclairé. Je sais que je vais te faire une grosse peine.
C'est mignon, hein, cette lettre de rupture. Et en même temps, c'est un peu lâche. Parce que cette Paul Bellus, c'est sa maîtresse depuis 10 ans. C'était sa secrétaire. Alors il a raison de rompre, hein, c'est plus prudent. Mais par courrier tout de même. Quel manque de courage. Et juste après, Pierre Lager écrit 3 lettres. Alors je vous préviens, cette scène n'est pas facile à comprendre. Est-ce qu'il est au bout du rouleau? Est-ce qu'il est prêt à se balancer? Est-ce que c'est une ruse? Encore une de ces ruses? Toujours est-il que dans ces 3 lettres, Pierre Lager annonce sa mort prochaine. Il va se suicider. Il envoie la première à ses amis les Costes, Louis et Juliette. Il leur explique qu'il a des soucis d'argent, qu'il a des dettes, qu'il n'arrive pas à rembourser. Il leur demande de prendre soin de son fils Jean. Et il termine par cette phrase. « Chers amis, priez pour votre malheureux Pierre. » Il envoie la 2e lettre à son beau-frère Georges, très différente.
« Georges, tout est fini. Le sort est jeté. » À l'heure où tu liras ces lignes, je ne serai plus qu'un cadavre. Je ne peux pas supporter plus longtemps le poids de cette accusation qui pèse sur moi. Je sais trop que même lavée et déclarée hors de cause, elle me suivra toujours et partout. Et que je suis un homme irrémédiablement perdu.
Quant à la 3e lettre, il l'envoie à un journaliste, Léon Dupré, le correspondant à Béziers du journal Le Petit Méridional. Et dans cette lettre, il ne rentre pas dans les détails. Il n'évoque pas ses problèmes d'argent, ni les soupçons qui pèsent sur lui. Rien de tout ça. Je vous la lis.
« Cher monsieur Dupré, je vais volontairement me tuer. Pourquoi? Vous le saurez un jour. Et dans cette perspective, je viens vous demander, vous supplier, au nom de tout ce qu'ont représenté les familles Lager, Alexandre et Le Boucher, au nom de mes pauvres enfants, de ma vieille maman, de ma sœur, de faire dans votre journal et ceux de vos confrères bitérois le silence le plus absolu sur ma mort. »
Et ça, c'est absolument incompréhensible. Enfin, pourquoi diable veut-il qu'on cache sa mort? Quoi qu'il en soit, Pierre Lager poste ses 3 lettres, et là, vous vous attendez à ce que je vous annonce sa mort. Eh ben non! Quand les 3 destinataires reçoivent les lettres, il est toujours vivant. Mieux, il semble mener une existence sereine. Et naturellement, aucun des destinataires n'ose lui demander
« Alors, monsieur Lager, c'est pour quand ?»
Il est tellement vivant qu'il se rend même dans sa résidence secondaire du Tarn. C'est de là-bas que viennent ses problèmes d'argent. À la mort de sa tendre épouse, il a hérité. Et avec l'argent, il s'est acheté des terres agricoles autour de sa propriété pour y créer un élevage de poules. Mais comme il n'avait pas assez, il a fait un crédit à la banque. Et en parallèle, il s'est mis à boursicoter. Et là, au lieu de gagner de l'argent, il en a perdu. C'est pour ça qu'il a emprunté de l'argent à sa sœur Marie-Louise. En tout cas, il a bien fait d'aller passer quelques jours à la campagne, parce que pour lui, ça se complique. Les médecins experts viennent de recevoir les résultats du test de marche pratiqué sur les cheveux de Marie-Louise. Il y a bien des traces d'arsenic. Et ce qui est formidable avec le test de marche, c'est qu'il permet de dire quand elle en a pris précisément. Elle en a pris à Noël. Et à Noël, elle était en famille avec sa mère et son frère. Et ensuite, elle en a pris jusqu'au 1er février, date de son arrivée à l'hôpital. Un petit peu, tous les jours. Mais il y a mieux. Avec ce qu'elle a avalé, elle devrait être morte. Elle devrait être morte et enterrée. On lui a donné des doses de cheval. C'est miraculeux qu'elle soit vivante. Miraculeux. La suite est logique. Le 10 février 1930, Pierre Lager est arrêté et incarcéré à la prison communale de Béziers. Et dès le lendemain, c'est dans le journal Le Petit Méridional. Un docteur de Béziers arrêté sous l'inculpation d'une tentative d'empoisonnement. Son nom n'est pas dans le titre, hein, mais il est dans le corps de l'article. Et dans la foulée, la presse de Paris en parle aussi. Il est devenu célèbre. Pour nourrir son dossier, le juge veut savoir qui, précisément, s'est occupé de Marie-Louise entre son retour de vacances dans le Tarn et son hospitalisation. Réponse, sa mère, son frère Pierre et la bonne Madame Clavière. Mais Madame Lager-mère finit par lâcher que...
Oh ben la deuxième quinzaine de janvier, c'est surtout Pierre hein, qui lui préparait les repas. Ça c'est sûr.
Son frère. Et lui, maintenant qu'il est en prison, qu'est-ce qu'il a à dire pour sa défense? A-t-il de l'arsenic chez lui à Béziers? Ou dans le Tarn?
Ah, c'est-à-dire que oui. Mais bien sûr que j'en ai. Comme beaucoup de gens à la campagne, quoi. J'ai acheté la mort au rat, parce que j'avais des souris. Est-il vrai, monsieur Lager, que vous devez de l'argent à votre sœur? Ah oui, 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 c'est vrai. Je lui dois 90 000 francs. Mais je ferai tout pour la rembourser, hein.
Mais à part ça, il ne sait pas qui a pu administrer de l'arsenic à sa sœurette. C'est assez habile hein, comme défense. Il reconnaît qu'il a de l'arsenic, il reconnaît qu'il doit de l'argent à sa sœur, mais le poison, c'est pas lui. C'est la meilleure défense qui vaille. Le juge fait fouiller son appartement et celui de Paul, sa maîtresse, comme quoi la congédiée n'a servi à rien, on ne trouve pas d'arsenic. Il ordonne une enquête de personnalité. En dehors de sa maîtresse et de ses problèmes d'argent, il n'y a pas d'autre faille dans sa vie. La maîtresse, à propos, qu'est-ce qu'elle en dit de tout ça?
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, je le fréquente. Depuis le mois de mai. Il vient chez moi tous les soirs. Mais attention, monsieur le juge, il y dort pas, hein, vous comprenez? Il doit veiller sa sœur souffrante.
Vous êtes certain qu'il veille sa sœur?
Ah mais bien sûr, monsieur le juge. Si vous saviez comme il a été peiné quand elle est tombée malade.
Le lendemain, bonjour le secret de l'instruction, l'audition intégrale de la maîtresse est dans le journal. En tout cas, depuis que l'affaire est dans les journaux, les putassières de Béziers s'en donnent à cœur joie. Tous les jours, le procureur a droit à des lettres anonymes. On veut rajouter des morts dans l'entourage de Lager. Le juge en a assez, hein. Ce qu'il veut, lui, ce ne sont pas de nouvelles victimes. Ce qu'il veut, ce sont des preuves. Le 14 février, le juge, le procureur et le médecin légiste se rendent au cimetière de Béziers et ils emmènent Lager menottes au poignet. Ils exhument les cercueils de Sarah et de Suzanne, sa première et sa deuxième épouse. des journalistes ont réussi à se faufiler, ils n'en perdent pas une miette. Les deux cercueils sont emmenés à l'hôpital de Béziers et l'âgé, comme il a fait médecine et qu'il en a vu d'autres, est prié d'assister à l'autopsie. Ça marquera les journalistes, ça, qu'il ait assisté à l'autopsie de ces deux femmes. Pour eux, ça voudra dire qu'il n'a pas de cœur, qu'il a le cœur froid. Ça dure toute la matinée. On fait des prélèvements, on referme les cercueils, Pierre Lagé retourne en prison et les cercueils dans leur tombe. Et maintenant, on attend les résultats. Le lendemain, le juge décide de confronter le frère et la sœur. Et comme entre-temps Marie-Louise est rentrée chez elle, c'est là-bas que ça se passe, chez elle. Et au final, ça n'a aucun intérêt parce que elle l'accuse, lui dit qu'il est innocent, rien de neuf sous le soleil. Et ce qui est plus étrange, c'est que dans la foulée, Marie-Louise retire sa plainte contre Pierre. Bon, elle sait que maintenant la justice s'en occupe, qu'une enquête est ouverte, c'est son frère, voyez-vous. Et de fait, l'enquête se poursuit. Et évidemment, puisqu'elle est la victime, il y a sur elle une enquête de personnalité. Qui, oh là là, la coquine révèle l'existence d'un amant. Oui, ma bonne dame, un Espagnol, Vicente, un homme marié. Et ça fait des années que ça dure, hein. Son surnom, c'est Toréador. Et vous savez ce qu'il fait dans la vie, ce Toréador? Il est macro. Ah, ça change un peu beaucoup l'image qu'on se faisait de la brave Marie-Louise, hein? Non? Bah si. La presse en tout cas s'en régale. Dans cette affaire, c'est la cerise sur le gâteau. Un maquereau. Marie-Louise. Du coup, bien que victime, c'est maintenant Marie-Louise qui fait la une de Radio Rumeur. Il se murmure qu'elle aurait la ch'touille. La syphilis. Marie-Louise, enfin! Heureusement, de bonnes âmes viennent jurer qu'elle est chaste comme une nonne. Le juge décide alors de mettre Pierre Lagé à l'isolement. À l'époque, on dit mettre au secret. Il le soupçonne d'être depuis sa cellule, à l'origine des rumeurs qui viennent de salir sa sœur Marie-Louise. La ch'touille, sa sœur et lui. Et bien sûr, à un moment, tombent les résultats des analyses réalisées sur les cadavres des deux épouses. Sarah, morte en 1922, eh bien c'est une probable intoxication arsenicale. Et pour Suzanne, il y a 6 mois, c'est pas probable, c'est certain. Intoxication arsenicale avérée. Eh ben voilà, on y est. Il est cuit, le coco. Il a tué ses deux épouses et il a voulu tuer sa sœur. Avec la même méthode, il les a empoisonnées à l'arsenic. Le juge le fait donc revenir dans son bureau, où il continue de mentir comme un arracheur de dents qu'il est. Votre première femme, monsieur Lagé, Sarah. Les expertises nous démontrent que c'est probablement l'arsenic. Sarah? Oh, c'était il y a bien longtemps, hein. Et à mon souvenir, les médecins à l'époque n'ont pas pu se mettre d'accord sur les causes de sa mort. Pour Suzanne, monsieur Lagé, c'est aussi l'arsenic, ça. C'est certain. Ah bon? Elle prenait un médicament, de la liqueur de Foller. Et ils ont dû confondre avec l'arsenic. Ah, il est retort, le Lagé. Et là, le juge commence à s'intéresser aux autres morts. Tous ces noms qu'on lui a suggérés et qu'il avait négligés jusque-là. La Tati, par exemple, Madame Pitoisé. Morte à un âge avancé, certes, mais dont Lagé a perçu un héritage conséquent. Est-ce qu'elle n'aurait pas avalé la potion magique, elle aussi? Le juge fait déterrer son cercueil, réaliser des prélèvements, toujours en présence de Lagé, qui n'a pas l'air inquiet. Et on comprend vite pourquoi. Le test de marche est négatif, il n'y a pas d'arsenic. La Tati est morte de sa belle mort. En revanche, il y a un problème avec la bonne, sa bonne. En examinant les carnets de compte de Pierre, le juge s'aperçoit qu'il a aussi spolié son employé de maison. La pauvresse est illettrée, elle lui a confié la gestion de ses comptes et de ses économies. La naïve, il a tout siphonné, et il a tout placé en bourse. Mieux, il ne lui verse plus de salaire. Au mois de décembre, un an après le Noël à l'arsenic dans le Tarn, le docteur Pierre Lager est renvoyé devant la cour d'assises de l'Hérault et en mai, il est transféré à la prison de Montpellier. Le procès s'ouvre le 3 juin 1930. Toutes les gazettes locales et nationales sont là. Pour l'occasion, elles ont publié dans les jours qui précèdent des doubles pages sur l'affaire, des dossiers complets, avec des photos de Lager, de sa sœur Marie-Louise, de ses deux épouses, et même de la tante pitoisée. Il y a même, tenez-vous bien, des envoyés spéciaux du Times et du Daily News qui sont venus des États-Unis et d'Angleterre. Et soyons clairs, tous réclament la tête du dentiste. Oui, dans les années 30, les journalistes participent à la curée. Ah, plus aujourd'hui. Ah non, ça se fait plus. Quand Lager entre dans le box, on voit tout de suite qu'il a soigné son apparence. La barbe, notamment. Magnifiquement coupée. Une gravure de mode, écrivent les journaux. Lager a enrôlé deux avocats. Et leur argumentaire est très simple.
Un docteur, car il est docteur, n'aurait jamais choisi l'arsenic, enfin. Il savait que l'arsenic était détectable très longtemps après, dans les cheveux.
Donc, ça n'est pas lui. Donc, il est innocent. Sauf que les médecins viennent dire à la barre que les doses étaient vraiment très fortes, qu'elles étaient destinées à tuer, et que tous les témoins disent qu'il était le seul à administrer des traitements à Marie-Louise. Le procès dure 3 jours, et à la fin, Pierre Lager est déclaré coupable. Coupable de l'empoisonnement de sa sœur Marie-Louise, et coupable de la mort de sa deuxième femme Suzanne. Pour la première, il y a un doute, il est acquitté. Et naturellement, il est condamné à mort. Il est promis à la guillotine de Montpellier, où ça fait 30 ans qu'il n'y a pas eu d'exécution. Le pourvoi en cassation ? Rejeté. Lager n'a plus qu'un espoir, la grâce présidentielle du président Paul Doumer. 10 jours plus tard, il est gracié. Le chef de l'État a été sensible à un rapport d'expertise toxicologique qui remet en cause les analyses scientifiques qui ont étayé le dossier. En conséquence de quoi, Pierre Lager est condamné aux travaux forcés à perpétuité. Et à l'époque, ça veut dire la Guyane, avec passage par le pénitencier de l'île de Ré. Lager débarque en Guyane en octobre 1931. Il est emmené sur l'île Royale, mais il ne reste pas longtemps forçat. Très vite, il est nommé infirmier à l'hôpital. Et il finit même par être assistant du chirurgien. En 1938, sa peine est réduite à 20 ans. Et le 1er septembre 1944, il est retrouvé mort dans sa cellule. Il s'est suicidé. Empoisonné, figurez-vous. À l'arsenic ? Ça, on ne le saura jamais, il n'y a pas eu d'autopsie. Il a laissé une lettre qui se termine par ces mots. Adieu à tous, et je pardonne. Sa dernière ruse. Formidable histoire criminelle tirée du livre de Jean-Pierre Fournier qui est là avec moi, l'affaire Lager, une énigme qui bouleversa la France, parue aux éditions Le Papillon Rouge. Et ma première question, monsieur Fournier, est-ce que vous savez ce qu'est devenue Marie-Louise, parce que elle a survécu ?
Alors c'est difficile, parce qu'effectivement elle a survécu, et elle s'est retirée avec sa mère à Marseille. Mais je n'ai jamais pu savoir ce qu'il était advenu, je crois qu'elle est décédée d'ailleurs à Marseille, sa mère donc également, puisque le corps de sa mère a été rapatrié dans le caveau de famille à Béziers en 1935. Mais Marie-Louise, on ne sait pas.
On va revenir dans un instant sur cette histoire point par point, parce qu'il y a deux, trois points que je veux absolument éclaircir avec vous. Mais j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a intéressé là-dedans. Vous êtes de Béziers ?
C'est non, une affaire mais pas très loin.
C'est une affaire qui court dans l'imaginaire de Béziers. Les gens savaient avant que vous écriviez cette histoire ?
Oui, oui, certaines personnes de Béziers. Bon, c'est quand même une affaire qui est très ancienne. Alors évidemment, la mémoire se délite au fil des ans. Mais il y a des personnes, je connais donc des personnes dont les parents ont connu donc la famille Alexandre, puisque les deux filles donc qui sont devenues les épouses de Pierre Lager étaient donc les filles Alexandre, et ils les ont donc très bien connues. Mmh. De même qu'ils avaient connu donc Pierre Lager.
Alors pour reconstituer, comme vous l'avez fait merveilleusement dans le détail, cette histoire, on trouve tout aux archives départementales de l'Hérault ?
Alors oui, on trouve beaucoup de choses aux archives départementales de l'Hérault, notamment la presse donc de l'époque. Vous aviez deux journaux régionaux importants, qui étaient l'Éclair de Montpellier et le Petit Méridional. Et ensuite, comme il a été jugé à Montpellier, tout son dossier d'instruction est archivé depuis aux archives départementales donc de l'Hérault, c'est-à-dire à Montpellier. Son dossier donc pénal, quand il était au bagne, est archivé à Aix-en-Provence.
Ça pèse combien, un dossier d'instruction comme celui-là ? Parce qu'aujourd'hui, un dossier d'instruction, ça pèse des kilos.
Bonne question, je ne l'ai pas pesé, mais il est énorme. J'ai mis 2 ans, donc, parce que... Alors, le problème, c'est que quand j'ai consulté ce dossier... Normalement, j'ai dû demander une dérogation parce qu'il fallait à l'époque respecter un délai de 100 ans entre la condamnation et la communication donc au public. Alors que maintenant, dans les années 2000, 2005, par là, ou 6, ils l'ont ramené à 75 ans. Alors j'ai mis 2 ans donc à dépouiller ce dossier et à le travailler donc sur ordinateur. J'avais pas d'autre solution, je pouvais pas faire de photocopie ni le numériser.
Moi, ce qui m'a fasciné, Monsieur Fournier, dans cette histoire, c'est la qualité de cette enquête. Je raconte beaucoup d'affaires anciennes, et en général, les enquêtes, les instructions sont complètement bâclées, les gens condamnés sans preuve. Là, c'est impeccable d'un bout à l'autre, non ?
Écoutez, j'ai essayé de rendre cet ouvrage le plus précis possible.
Mais l'enquête elle-même de police, celle du juge, est impeccable. C'est-à-dire qu'ils ont réuni les preuves, ils ont pratiqué les tests à la mesure de la science de l'époque, bien sûr.
Oui, voilà, comme vous dites, à la mesure de la science de l'époque. Parce que, en définitive, les preuves, si on veut... Parce que si on se reporte quelques années plus tard, vous avez aussi l'affaire Marie Bénard. Et Marie Bénard a fini acquittée.
Oui.
Alors, pour...
Alors qu'on retrouve de l'arsenic dans certains des cadavres.
Oui, alors, dans certains endroits, on trouve effectivement de l'arsenic. Et alors lui, en fait, et comme vous l'avez très bien dit, très bien expliqué, il s'est retranché derrière le fait que, bon, étant médecin, il n'aurait pas employé l'arsenic. D'autant que l'arsenic a la propriété de conserver, de dessécher les corps. Alors que si vous avez bien lu donc le livre, quand ils ont exhumé le corps de Sarah, c'était de la bouillie, il n'y avait plus rien, quoi.
C'est-à-dire que vous doutez du test de marche et de sa fiabilité ?
Non, je ne doute pas. Certainement qu'il y avait donc de l'arsenic. Mais à quelle dose, on ne sait pas. Parce que le rapport donc du cabinet de toxicologie de Paris a remis un peu en cause donc les analyses qui ont été pratiquées par les médecins languedociens. C'est ce qui lui a évité, bien sûr, la guillotine.
D'ailleurs, évoquons tout de suite ce mystère qui est l'argument soulevé par l'avocat de Lager au procès. Effectivement, il savait que l'arsenic était détectable. Pourquoi l'a-t-il utilisé ? Mais enfin, il a joué à la roulette russe, c'est-à-dire que...
C'est ça, il a joué à la roulette russe.
Oui, c'est ça, la probabilité qu'il y ait un contrôle était faible.
Tout à fait, et alors, il n'y a pas d'aveu, il n'y a jamais eu d'aveu.
Ouais.
Il y avait donc deux morts suspectes, et si sa sœur était décédée à son tour, c'était le crime parfait.
Ouais.
C'est le grain de sable qui a grippé la machine.
Parce que l'arsenic, c'est un poison qui est utilisé essentiellement en quoi, au XVIIIe siècle ?
Oh ben au XVIIIe, XIXe, XXe.
Parce qu'il est assez vite détectable, c'est-à-dire qu'il laisse,
au-delà
du test de marche, il laisse aussi des traces dans les tripes,
traces très caractéristiques. Il l'a dit lui-même au procès. intéressé. Il a dit, mais un étudiant de première année de médecine sait très bien que l'arsenic est un poison qui est détectable entre tous. Hein. Il connaissait, lui, des poisons qui étaient totalement indétectables.
Et qu'il ne les a pas utilisés. Voilà. C'est ça son argument. Alors, il y a un autre grand mystère. Bon, moi, j'ai ma petite idée, je voudrais la vôtre d'abord. Les trois lettres qu'il envoie pour annoncer qu'il va se suicider, et puis il ne se suicide pas, et à aucun des trois, il ne raconte la même histoire. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un truc incompréhensible de cette histoire, je trouve.
Ben, je pense que là, il était acculé, hein. Il a été acculé parce que, donc, il y avait de forts soupçons qui pesaient sur lui, et à mon avis, il a donc essayé de noyer donc le poisson en expliquant qu'il était persécuté, qu'il n'avait rien à voir dans cette affaire et que, ben, ma foi, il allait donc se suicider parce que il en avait donc assez d'affronter les regards, d'affronter les remarques, etc.
Mais la requête faite au journaliste en lui disant « Je vous demande de ne pas parler de ma mort », c'est assez prétentieux puisqu'en vérité, après sa mort, qu'est-ce qu'il en a à faire ?
Oui, mais c'était quelqu'un de très prétentieux, hein, ouais.
Oui, il avait, il avait une haute opinion de lui-même.
Tout à fait, hein, tout à fait.
Alors moi, ma piste, je vous la soumets, vous me dites ce que vous en pensez.
Oui.
Il est un peu zinzin, le docteur Lager. Est-ce qu'il n'y a pas là les signes d'une maladie mentale ? Parce que c'est du grand n'importe quoi, ces trois lettres.
Oui, mais bon, c'est difficile, hein, parce que, comme disait l'autre, hein, le génie et la folie, c'est congénère, hein, donc...
Ouais. Vous dites génie. Il y avait du génie chez lui.
Ah ben oui, parce que bon, il a donc réussi quand même donc à liquider ces deux femmes. Enfin, si vraiment. Donc
pour la première, il a bien réussi puisqu'il a été acquitté. Donc c'est.
Oui, pour la première, oui. Mmh. Donc il a été acquitté pour la première. La seconde, bon.
Ça a failli passer. Après,
là, évidemment, comme la sœur. Alors, en plus de ça, la sœur s'en sort et la sœur l'accuse. Mmh. L'accuse parce que bon, il y a des problèmes d'argent. Non seulement la sœur l'accuse, mais la mère. Mmh. Ce qui ne s'était jamais vu dans les procès, ce qui ne se voit pratiquement jamais dans les procès d'assises.
Oui, la mère l'a lâché. Quand elle dit
oui.
Les 15 premiers jours de janvier, ben, faut bien reconnaître qu'il était tout seul avec elle. Et ben voilà.
Voilà.
Je vous remercie beaucoup, Jean-Pierre Fournier, de nous avoir autorisé à piocher dans votre livre cette formidable histoire, livre dont je rappelle le titre, l'affaire Lager, une énigme qui bouleversa la France, aux éditions Le Papillon Rouge.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.